Directeur en jeu, la radio insolite, j'adore parler de tout type de sujets. Et imaginez, là, je suis avec quelqu'un qui est vainqueur de la Coupe du Monde d'escalade, 3 fois champion du monde et champion de rampe. Bonjour François.
Bonjour. Bonjour.
Pourquoi tu rigoles, François?
Parce que c'est l'homonyme qui me fait rire. C'est dû rapporter ce nom, François Legrand.
Ah, mais c'est pas toi qui es vainqueur de la Coupe du Monde d'escalade alors?
Ah, écoute, je suis monté un jour sur un rocher à Fontainebleau. Si on n'était pas venu me chercher, je serais encore sur ce rocher. Donc non, c'est pas moi.
Bon, alors je m'excuse. Alors pardon, Donc François est un artiste peintre français qui est membre de l'école des Tempes.
Presque, mais j'ai non, pas arrête, trouvé sérieux. Ma palette de peinture. Non, j'ai pas retrouvé ma palette de peinture quand j'étais à la maternelle. Non, ce n'est pas moi, non.
Mais non,
je ne suis pas peintre. Non, mais je sais. Par contre, j'aurais pu fabriquer les prises de courant, hein, comme Legrand, avec un D à la fin, bien sûr.
Ah non, moi, je croyais que tu étais fils caché de Michel Legrand.
Et longtemps, je l'ai cru. Longtemps, mais quand je me suis mis à chanter et puis essayer de faire de la musique, je me suis dit, c'est pas possible. L'atavisme familial aurait fait que je pouvais jouer un instrument là. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas moi. Tu vas y arriver. Je pense qu'on va y arriver.
Bon, écoute, moi je suis plus là. T'es qui toi en fait? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vas-y.
Je suis comédien, donc je m'appelle François Legrand. Voilà, un jour, j'ai ouvert la page Facebook, pas Facebook, mais Google. Et je me suis dit, oh là là, il y en a pléthore de François Legrand. C'est un peu. Comme les Martins, tu vois, y a pas qu'un seul Martin sur Terre. Donc oui, je suis comédien depuis à peu près sérieusement 88-89.
Ouais, c'est ça. 87 pour être précis, d'après les infos que j'ai trouvées.
Voilà, 80. En fait, 87, j'étais à l'époque artisan louageur. Je conduis. Artisan louageur, c'est-à-dire que le louage, c'est que je louais mes services pour faire de la messagerie, petite messagerie en l'occurrence.
Ah oui, d'accord.
J'avais une camionnette avec une caisse et puis je faisais tout l'ouest de la France. Ça faisait tout l'ouest de l'Essonne, pardon. Ça faisait à peu près deux, trois ans que je faisais ça. J'avais d'abord été salarié chez un artisan qui m'a revendu sa course. Je savais pas trop quoi faire et puis. Conduire était quelque chose que je maîtrisais, donc j'ai fait ça. Mais en 87, je commençais un peu à m'ennuyer. Je rencontrais des gens, certes, très intéressants et très respectables, mais je dirais, on ne parlait pas trop culture, si tu veux, à 5 heures du matin quand j'allais chercher mes colis. Et je me disais, bon tiens, j'aimerais bien faire quelque chose d'artistique. Être acteur ne m'avait pas trop traversé l'esprit. J'y pensais pour travailler ma timidité et résoudre certains soucis personnels. Et puis un jour, je croise en 87, la sœur d'un copain qui m'amène, qui me dit qu'elle allait prendre des cours. Quand je lui ai dit qu'elle avait de la chance, elle m'a dit « viens avec moi ». Je suis rentré, j'ai croisé un gars qui s'appelle Stéphane Keller, qui est toujours mon ami, parrain de ma fille, etc., qui est un auteur formidable et qui m'a... Comme ces gens-là, quand généralement vous leur dites « est-ce que je peux regarder ?», ils vous disent oui, et puis au bout d'un moment, ça manque pas, ils vous disent « viens faire un texte, ça m'a plu ». J'ai fait ça pendant 2-3 mois, vraiment une fois par semaine, et puis je me suis cassé la cheville, et là j'ai arrêté mon camion, et je me suis dit « François, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Tout mais pas très longtemps, le seul métier dans lequel je me voyais vieillir, c'était comédien. Prétexte à ne rien faire, certainement, je connaissais rien au métier. Et puis voilà, puis après 87, j'ai fait encore un peu chasseur dans un hôtel. Et puis Stéphane Keller m'avait donné un cours de théâtre du soir, Françoise Canel, une ancienne de la Comédie Française. Et puis elle donnait des cours à l'emplacement où il y avait une école qui s'appelait LEDA, l'entrée des artistes, d'école d'Ispigno. Et donc après un an, je suis allé là. Ça a duré un an, quoi. Donc ça, c'est voilà. Je fais ça depuis ce moment-là.
Et puis t'as fait un vrai marathon parce que d'après les infos que j'ai, entre 91 et 93, t'as joué quand même 500 fois. C'est assez impressionnant dans une pièce qui s'appelait Thé à la menthe ou Thé citron. Et en plus, c'est des endroits pas très connus. Le café de la gare, je crois, c'est ça, non?
Oui, bah c'était, oui, il y avait un train qui passait, on s'est arrêté, puis on s'est dit, tiens, on va aller là. Non, oui, j'ai eu une chance, j'ai eu de la chance, en fait, j'avais une amie qui avait une amie, et c'est l'époque des cabines téléphoniques. Je dis ça parce que j'étais près de la Seine, et puis je me dis, tiens, je vais appeler cette amie, donc je mets une petite pièce dans le doigt, je suis dans la cabine, et puis elle me dit, ça, j'ai une amie qui va jouer dans une pièce, ils cherchent un gars, ils viennent de faire Avignon, ils ont un peu restructuré la pièce, ils changent d'équipe. Voilà, ils cherchent un gars, et elle me parle de Patrick Hautecoeur, et elle me dit, va te faire, vas-y. Donc je téléphone à Patrick Hautecoeur, j'y vais, c'était à Lagny-sur-Marne, et puis, moi, je savais pas vraiment jouer à l'époque, hein, même pas du tout d'ailleurs. Et puis on s'est entendu. J'étais une nature, ce qu'on peut appeler une nature. J'étais un peu comme Obi-Wan Kenobi, ou comme Lucas, comment il s'appelle là, le gars de Star Wars,
Lucas
Luke,
Skywalker.
Luke Skywalker. J'avais la force en moi, mais je le savais pas.
Tu prends de bonnes références quand même.
Bah oui, bah il vaut mieux prendre de bonnes références. Hein. Donc, voilà, on a travaillé pendant 4 mois à Lagny-sur-Marne. On espérait à l'époque, on savait que Café de la Gare faisait le Festival des Remarquables, et ça existait une quinzaine de jours. On a auditionné, et puis finalement on a eu 1 mois et demi, et puis après voilà, de bouche à oreille, le bouche à oreille a fonctionné. On a joué 1 an en variété. Et puis après, pardon, Café de la Gare, et puis après, ça a été une autre aventure. Paul Lederman est arrivé, le producteur, on a été aux variétés. Voilà.
D'accord.
Donc moi, j'ai appris sur scène, hein, carrément sur scène. J'ai, voilà.
T'as quand même un chouette parcours. Alors, les gens te connaissent sans se connaître, puisque dernièrement, t'as joué
Ah.
dans Montmartre à la télévision, t'as aussi joué dans Scène de
Oui.
ménage, t'as été fait un tour du
Ouais.
côté de Groland, bravo. Et puis,
Oui, d'abord.
t'as fait pas mal de trucs originaux qui sortent un peu de l'ordinaire, aussi bien à la télévision, mais aussi au théâtre, mais aussi au cinéma. C'est assez varié. Il y a un domaine que tu préfères plus qu'un autre?
Honnêtement, non, non. Je dirais que ma nature profonde je dirais d'homme tranquille me dirait que le cinéma est bien, parce qu'on attend beaucoup, on joue 5 minutes et puis on se repose après derrière. Non, j'aime bien toutes les formes. J'adore le théâtre. Au départ, sincèrement, je pensais que j'aurais plus de chance au théâtre au début, et puis après, bah la pellicule, le film, comme c'est présenté. Mais sinon, j'adore quand, en fait, moi je joue, j'adore quand on m'appelle, et je vais jouer là où on me dit de jouer. Et le théâtre, quand même, honnêtement, j'adore le théâtre, parce que c'est vraiment une rencontre entre des équipes, les répétitions, la recherche, le plaisir d'être sur scène, d'être confronté au public. Ça, c'est formidable. Donc, j'aime bien toutes les formes. J'aime bien. J'ai, par exemple, j'aime aussi. J'ai fait beaucoup de publicité, et j'ai adoré faire ça, parce que c'est une formidable école pour apprendre à travailler dans la caméra. Il faut être très efficace, faut aller vite, faut répondre aux indications du metteur, du réalisateur très rapidement. Donc, ouais. Donc, j'aime bien. Moi, oui, on m'appelle, je réponds, présent.
D'accord, c'est une belle présentation quand même. Alors le spectacle qui est présenté, qui va commencer très bientôt,
Oui,
s'appelle Notre cher
absolument.
auteur, et j'adore le sous-titre, c'est parfait, mais on change tout.
Oui, absolument. Le pitch, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vais jouer un auteur qui a décidé de plus écrire pour le théâtre, tellement il a été déçu. Chaque fois qu'il écrit quelque chose, il le donne au metteur en scène, qui change pratiquement tout ce qu'il veut dire, qu'il a voulu dire, et puis les acteurs en font un peu à leur tête. Donc il a dit, je n'écris plus. Et puis il fait des romans, voilà. Mais bon, c'est quand même un auteur de théâtre à la base, donc il y a toujours une flamme qui vacille, qui est là. Et il rencontre, par hasard, entre guillemets, un vieux copain de scène, qui cherche à lui mettre en scène quelque chose. Il est tombé amoureux, et avec sa nouvelle amie, son amour, Marie-Hélène Lampigny, qui est une actrice qui n'a pas joué depuis longtemps, il cherche une scène, une pièce, et il a un théâtre, il est un producteur, et voilà, on sent bien qu'il ne rencontre pas par hasard son vieux copain, auteur, et il va lui le convaincre de lui donner une pièce à jouer en lui disant « Mais t'inquiète pas, on ne changera rien, je comprends par les affres par lesquelles tu es passé, ne t'inquiète pas, on ne changera rien. Mais on va faire une lecture, je vais te faire rencontrer Mathilde, donc qui est jouée par Marie-Hélène Lantini, et puis tu verras, tout se passera bien. » Et puis évidemment, ils vont, d'une manière très insidieuse et très intelligente, ils vont lui retourner la tête, quoi.
Oui, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est une manière de voir les choses. Alors évidemment, on retrouve, comme d'habitude et très fréquemment, Anna Maria Bamberger comme auteur, et puis Jean-Philippe Azéma à la mise en scène. Ce sont quand même des grands personnages, ces deux-là. Hein.
Ah oui. Moi, je ne connaissais pas Anna Maria. J'ai vu, donc j'ai regardé. Effectivement, c'est une grande autrice. Elle a eu beaucoup de succès en Roumanie, puisqu'elle est originaire de là-bas. Et puis, elle a aussi écrit une pièce dans laquelle a joué Marie-Hélène, là, qui s'appelait Poisson et petits pois en 2004. Donc, c'est une amie ils se connaissent depuis longtemps. Et donc, moi, je ne connaissais pas Anna Maria et je ne connaissais pas Jean-Philippe Azéma seulement de réputation. Et j'avoue que quand j'ai eu la possibilité de travailler avec lui, ça a été une grande joie j'espérais pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui, tu vois. C'est vraiment un très grand metteur en scène. Il est adorable, il est gentil, il est un directeur d'acteur formidable. Il a une idée à la seconde. Et travailler avec des gens comme ça, c'est formidable. Et Marie-Hélène Lantini, c'est par son intermédiaire que j'ai eu vent du projet. Et je la connais depuis quelques années. On avait fait une pub il y a très longtemps ensemble. On se côtoie, on se croise, on se souhaite nos anniversaires. Et quand elle m'a appelé, j'étais très très fier de recevoir son coup de fil, parce que jouer avec elle, qui pour moi est la digne héritière de Jacqueline Maillan, de Maria Pacôme, de ces actrices extraordinaires qui pétillent sur scène. Ah oui, je le dis sincèrement, c'est vraiment, je l'ai vu jouer plusieurs fois sur scène, je suis un admirateur de Marie-Hélène Lantini. Donc jouer avec ces gens-là, c'est formidable. Et il y a François Nambeau, que je ne connaissais pas non plus, que je suis allé voir jouer dernièrement, là. Il a joué dans Les Collectionnistes, et aussi dans une pièce qui va jouer en janvier, Arletty. C'est un acteur extraordinaire. Je suis avec des cadors, donc il va falloir que je sois à la hauteur.
L'impression que j'ai aussi, c'est que vous avez tous la passion de ce que vous faites.
Vous
avez l'air de vous faire plaisir sur scène, en tout cas.
Ah ouais, on se fait plaisir sur scène, oui, absolument. On s'amuse beaucoup. Là, on est dans le travail de répétition, donc on cherche, on met en place. C'est vraiment un grand plaisir. C'est du jeu, quoi. C'est vraiment, on joue bien, on rigole. Mes camarades sont vraiment des partenaires formidables.
Ça va se jouer à la scène parisienne à partir du 20 janvier 2026 au 28 avril. Ça sera, j'allais dire, uniquement tous les mardis à 19h30.
Alors oui, pour l'instant, alors ça c'est pas moi qui suis derrière la production, la programmation et les décisions, mais c'est pour, en fait, on va roder la pièce. On en a profité et on va pouvoir roder la pièce. Et le but du jeu, ça va être évidemment de convaincre des tourneurs de vendre la pièce. Il y a un objectif qui est Avignon, mais qui ne sera pas cette année, enfin 2026, parce que Marie-Hélène est surbookée. Mais l'objectif, c'est 2027. Et entre-temps, de pouvoir vendre la pièce, de tourner, aller peut-être dans d'autres théâtres, enfin de convaincre des directeurs de théâtre, des programmateurs de prendre la pièce. Et ce qui est bien dans cette façon de faire, en fait, c'est de pouvoir justement rouler la pièce. Alors le truc, ça va être, on a une quinzaine de représentations tous les mardis, et ça va être une quinzaine de premières à chaque fois, donc c'est assez excitant. J'ai hâte d'y être.
D'accord, ok, parfait. Donc la scène parisienne, à partir du 20 janvier, je suppose qu'en allant sur le site internet de la scène parisienne, on peut réserver déjà?
Alors oui, absolument. D'accord. La réservation est ouverte, il suffit d'appeler le théâtre et on peut prendre des places. Dépêchez-vous, c'est presque complet, je crois.
D'accord, écoute, super. Donc ne traînez pas, c'est un conseil. Ça s'appelle Notre cher auteur, c'est parfait, mais on change tout. Merci François, après ces quelques minutes, on vous expliquait tout cela.
Merci Alain, ça a été un plaisir.
Merci à toi.